L'Antichambre vous est présentée par Albi le Géant, le plus grand choix de véhicules neufs et d'occasion. Albi le Géant, on vous attend. Et par Le Beau Vitre d'Auto, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne pour votre remplacement de pare-brise. Visitez lebeau.ca.
Bonne fin de soirée, bienvenue à l'Antichambre. Merci d'être avec nous après ce match entre les Sénateurs et les Leafs. Non, il n'y a pas eu de remontée spectaculaire, miraculeuse des Sénateurs. La normale qui est revenue du côté des Sénateurs, qui seront les proches, les Leafs et les Sénateurs seront les prochains adversaires du Canadien en fin de semaine. Gros menu pour vous aujourd'hui. Hélène Petit sera là pour nous parler de tennis, Real Alone et sa chronique business du sport. Mais d'abord, parlons du Canadien avec Vincent Danfousse, Guy Carbonneau et François Gagnon. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Et aussi dire que plus tard dans l'émission, vous allez nous présenter vos formations que vous auriez pour équipe Canada en vue des Jeux olympiques en 2022.
C'est pas les sélections finales.
Non.
C'est à un an.
Et il y a des différences, et c'est ça qui serait intéressant
parce
de comparer.
C'est moins
de
différentes formations.
Oh, oui. Vous avez le choix des cadeaux, comme on dit.
Bon,
allons-y avec les manchettes Albi le Géant. François, d'abord.
Écoute, Claude Julien a créé, je vais dire, une onde de choc la semaine dernière lorsqu'il a décidé de chasser de sa formation Thomas Tatar. On s'est demandé comment il allait revenir. Il allait-tu bouder? Il allait-tu bougonner? Il allait-tu être bon? On s'est mis à dire, ben, tant qu'à y être, pourquoi pas l'échanger? Peut-être qu'il sera pas là l'année prochaine. Et ça, c'est une possibilité. Mm-hmm. Mais peu importe qu'est-ce qui arrivera l'an prochain, Tatar doit être un atout pour le Canadien cette année. Et ma manchette, c'est Tatar jusqu'au bout, même si, une fois rendu au bout, il y a un précipice puis il doit s'en aller à titre de joueur autonome.
Intéressant, mais j'ai hâte de vous entendre. Il va y avoir un bon débat là-dessus parce que qui on remplace comment si on l'échange ou si on le perd. Bref, ça va être intéressant. Vincent, ta manchette?
Bien, c'est un peu ça, ma manchette. Moi, c'est le téléphone sonnera-t-il autant avec le cap qui reste flat pendant deux années supplémentaires, avec la quarantaine. On a vu ce qui est arrivé avec Dubois qui est arrivé à Winnipeg. Si on fait un échange le 12 avril, qui est la date limite dans le cas de Marc-Benjamin, parce qu'on a quand même des gars qui deviennent joueurs autonomes sans compensation, mais si c'est un gars qui arrive des États-Unis et qu'on est encore dans la même situation, on a deux semaines avant de l'obtenir pour qu'il nous aide dans les derniers stretch, le final de la saison. Donc, j'ai hâte de voir si le prix payé pour des joueurs de location comme ça, ou si tu veux t'en débarrasser d'un joueur de location comme un gars comme Tatar qui n'a pas de contrat, un gars comme Dano, un gars comme Armia, si on n'est pas capable de les signer, est-ce qu'on les garde ou on les échange probablement à un prix qui est moindre que dans les années passées?
Ouais, le marché va être intéressant à suivre à ce moment-là, selon la situation des équipes. Guy, ta manchette?
Mais moi, tu en as parlé tout à l'heure, puis on a fait notre liste. Puis je pense que pour Doug Armstrong, si son organisation, ça va être déjà des mots de tête pour choisir une équipe. J'en ai choisi 25, puis Vincent, puis certains. Puis j'ai une liste à côté.
Qui sont tous bons.
Un autre 25.
Un taxi squad bien complet.
Il y en a quelques-uns que c'est facile. Là, oui. Mais je pense que ça va être intéressant. Puis les fans vont avoir du fun aussi. Ils vont avoir du plaisir.
Ça va être intéressant si les jeux peuvent avoir lieu. Si bien d'ici, là, d'ici un an, mais ça va être très intéressant dans la deuxième partie de l'émission. On va parler de ça. Revenons sur ta manchette, François, sur Thomas Tatar. Puis pourquoi on en parle davantage? Évidemment, de l'avoir retiré de la formation, ça suscite des commentaires, ça suscite des réactions. Mais le cas de Tatar, il est important, ce gars-là, pour le Canadien. Dans les deux dernières années, ça a été ton meilleur pointeur, mais il n'y a pas de contrat. Ça aussi, ce dossier-là va faire jaser.
Il y a un contrat cette année.
Bien, il n'y a pas de contrat pour l'an prochain. Jusqu'au bout, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Que même si, à la date limite, on dit on peut le perdre pour rien, mais que c'est une valeur importante pour le Canadien?
Moi, j'en ai parlé dans le passé de ça quand c'est arrivé. C'est que, moi, je pense que c'est un message qui a été lancé à l'ensemble de l'équipe. C'est un message que tu as lancé. Oui, c'est Tatar qui est copé, mais tu as vu la réaction de Dano, on a vu la réaction de Gallagher, on a vu ce trio-là qui est allé remporter le match en troisième période. C'est eux autres qui ont fait gagner le match avec Toffoli. Tatar va se retrouver sur le troisième trio. Si Toffoli mérite d'avoir plus de temps que là, c'est des meilleurs éléments. Là. Mais quand même, moi, je pense qu'on a encore confiance à Tatar. C'est un élément important. Il a été très constant dans sa carrière quand même. Les 3-4 dernières années, c'est un gars qui a produit. Donc moi, je ne lancerais pas la serviette trop vite dans son cas parce que c'est un gars qui travaille aussi et qui est responsable défensivement.
Mais ça, c'est le mot-clé, lancer la serviette. Moi, je ne lance pas à Servette. Non. T'attends. Ben c'est pour non. ça que je veux qu'il reste à Montréal. Ben oui. Mais tu sais, ce qu'on entend depuis une semaine, Claude Julien n'avait pas d'affaire à faire ça. C'était son meilleur marqueur l'an passé. Oui, c'est vrai, mais l'an il était le meilleur marqueur parce qu'il n'y avait pas de Josh Anderson, parce qu'il n'y avait pas de Tyler Toffoli, parce qu'il manquait aux Canadiens les joueurs normaux que tu as besoin d'avoir mm-hmm. sur ta première unité, disons. Parce que Tatar peut être un joueur de deuxième ou troisième unité, ça y enlève rien au niveau de sa contribution qu'il peut donner. Mais il ne faut pas regarder le Tatar de l'an passé en disant « Hey, c'est ton meilleur marqueur ». Si Tatar est encore le meilleur marqueur chez le Canadien cette année, c'est parce qu'Anderson, puis Toffoli, puis Suzuki, puis Drouin n'auront pas fait leur job. Alors, tu le gardes, et puis, rendu au bout de la corde, les gros sous, là, c'est Anderson qui les a eus, puis c'est Suzuki qui va les avoir. Alors, Marc Bergevin, dans les embauches qu'il a faites l'été dernier, dans les contrats qu'il a donnés à Petrie puis à Gallagher, il nous a déjà donné une indication. Là.
C'est pas sa priorité. Puis la liste d'épicerie pour l'an prochain aussi est importante avec Dano. T'as Kotkaniemi notamment.
Il va s'en venir. T'as Suzuki qui va arriver. Il faut qu'il se garde de l'argent pour Romanov. Non. Vincent vient de le dire. Le plafond salarial va stagner pour les 2-3 prochaines années. Ces gars-là vont arriver à la caisse avant la fin de cette période de stagnation-là. Et la job du GM, c'est, oui, gérer le hockey, mais gérer le budget aussi. Et parce que Bergevin l'a bien fait dans les dernières années, il a pu effectuer les embauches qu'il a faites cette année. Alors là, il ne faut pas qu'il se mette la corde au cou financièrement, puis qu'il soit mal pris, puis qu'il soit pogné pour perdre un Kotkaniemi ou un Suzuki, ou au pire encore, un Romanov.
Mais pour cette année, Guy, quand le Canadien a mis la barre assez haut en début de saison en disant « Nous, on va aller jusqu'au bout », Tomáš Tatar, contrat ou pas l'an prochain, c'est un actif important, à moins de pouvoir le remplacer à date limite par meilleur, mais c'est un actif
très intéressant. Je suis d'accord avec François. Je pense qu'on le garde jusqu'au bout. Écoute, à moins que quelque chose d'extraordinaire arrive là, d'ici la fin ou le début des transactions, puis que le Canadien sombre dans le néant, puis qu'ils ne sont pas dans la picture des séries éliminatoires. Mais moi, je pense que le Canadien est dans les deux meilleures équipes de la division Nord. Ils vont faire les séries éliminatoires. Ils ont même... Moi, je pense qu'il y a une chance. On n'a pas la chance de sortir, exactement.
Oui,
alors, tu gardes tous tes éléments. Moi, je pense pas qu'un gars comme Tatar, puis Vincent l'a dit, avec ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale, qu'un gars comme Tatar, tu vas avoir un choix de première ronde si tu veux l'échanger.
Non.
Alors, tu sais, je veux dire, c'est si tu es capable d'aller chercher quelqu'un qui peut t'aider à une position qui est un peu plus jeune, mais qui va t'aider tout de suite, là, parce que le Canadien ne veut pas gagner dans 5-6 ans.
Non.
L'importance de l'espace sur le plafond salarial prend une priorité supplémentaire dans les années qui vont venir. Donc, dans le passé, on disait le gars devient joueur autonome, on va l'échanger, on ne perdra pas pour rien. Mais là, si tu t'en vas jusqu'au bout avec un Tatar, puis tu récupères l'argent que tu lui donneras pas dans les années futures, qui est 4,8 millions, tu t'en sers pour aller signer d'autres joueurs, sécuriser d'autres joueurs, et tu te fies sur les jeunes et la relève. C'est là, moi, quel point d'interrogation sur Dano. C'est faux que Kotkaniemi se développe. Sinon, Dano devient de plus en plus important. Mais tu n'as pas le choix de garder Dano et de libérer Tatar.
Exact. Dans la liste de priorité, Dano a plus de valeur pour le Canadien.
Ben, t'as le gars 5-6 ans, pas trop cher. Après ça te coûte très cher. Donc, il faut qu'il performe dans les années proches pour te permettre de laisser aller des vétérans comme Tatar.
Et c'est là que tu as besoin du renouveau. Puis le renouveau pour remplacer Tatar, il y a un nom. On ne sait pas encore si ce nom-là va devenir un joueur dans la Ligue nationale, mais le nom, c'est Cole Caulfield. Alors, on a déjà commencé à parler de lui une fois sa carrière terminée dans les rangs universitaires. Est-ce qu'il va arriver le printemps prochain? Est-ce qu'il va arriver à l'automne à Laval? Tu sais, Johnny Gaudreau suit le même parcours, en fait. Caulfield suit le même parcours que Johnny Gaudreau. Et Gaudreau a fait une saison de plus. Donc, Caulfield pourrait rester un an de plus à l'université.
Même si Caulfield n'est pas prêt, tu as un gars qui n'a pas joué encore, qui s'appelle Frolic, qui a quand même eu des bonnes années, qui ne coûte pas cher.
C'est intéressant de voir que
si jamais il vient jouer 2-3 matchs, puis tout d'un coup, on retrouve avec un gars qui est capable de faire le travail, bien là, ça enlève l'importance à Tatar. Plus de
il
ne
demandera pas 5 millions Frolic l'année prochaine.
Non, comme il fait 750 000.
C'est ça, 750
000. Tu doubles son salaire, il est content.
Mais on a eu quelques commentaires sur ce sujet sur les médias sociaux. Je veux les partager avec vous, puis vous pouvez commenter. Steve Flanagan, bon, échanger Tatar seul enverrait un bien drôle de signal aux joueurs. La direction n'aura d'autre choix que d'y aller all-in avec lui. C'est un peu ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'on y va all-in avec
Il y a encore 27 matchs avant la date limite des transactions. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des blessures qui peuvent arriver.
Il est capable d'aller changer pour chercher quelqu'un qui va les aider. C'est-à-dire, on ne le donnera pas, là.
André Lallemand, c'est, on a seulement Drouin comme ailier gauche, c'est-à-dire gaucher. Toffoli est un droitier qui joue à gauche. Donc, je garde Tatar parce qu'à gauche l'an prochain, bon, tu gardes Toffoli, est-ce que ça peut être une solution? Vous avez joué la game, là, un droitier à gauche tout
si
le temps.
Si tu gardes Tatar, d'après moi, tu dis bonjour à Philippe Dano.
C'est ça. Ouais. Alors, c'est.
Je ne peux pas signer tout le monde.
Et là, l'équation, là. C'est ça que les partisans, quand ils regardent ça, là, allez faire un tour sur le site de nos amis de Laval, de Cap Friendly, puis vous le mettez, là. Qu'est-ce que le Canadien a déjà dépensé pour l'an prochain? Alors, regardez ce que ça coûte l'an prochain, puis là, dites-vous, je rajoute Dano, je rajoute Tatar. Il va falloir que je paye un autre gars parce que, bon, ça va me prendre du renfort. Puis là, regardez le plafond, vous allez dire, oups, on a un problème, là. Alors, faut couper. Et je reviens à ça. L'été dernier ou l'automne dernier, quand Bergevin a commencé son magasinage, il est allé voir Gallagher, c'est normal. Il est allé voir Petrie, c'est normal. Il est allé voir Dano, il est allé voir Tatar. Puis, voulez-vous ça? Puis là, si les autres disent non, bien, nous autres, il est passé à d'autres choses. Et malheureusement, j'ai l'impression que pour Tatar, le bateau est passé au niveau financier. Il a dit, bon, bien, moi, je vais continuer. Ça ne l'enlève pas pour cette année, là. Puis, trompez-vous pas. S'il veut faire de l'argent l'année prochaine, il faut qu'il y ait une bonne saison aussi. Alors, Marc Bergevin n'a absolument rien à perdre dans cette équation-là. Parce que lui, son meilleur marketing, c'est les buts qu'il va marquer. Ouais. Alors, s'il les marque cette année, puis il s'en va, puis là, ben, on dira, ouais, mais on a perdu Pacioretty pour Tatar. Non, non, on a gagné Suzuki aussi.
Exact.
Alors, on n'aura pas aimé vite
du
côté du Canadien.
On a vu l'importance d'espace sur le plafond quand on a mis Byron aussi sur au balotage. Si Byron partait, on était... T'sais, on perdait un joueur qui a donné des bons services aux Canadiens, mais on avait besoin de sauver un 3
points. Et c'est dommage, rappelez-vous, combien de temps on a dit à Marc Bergevin, un 8 millions sur le plafond, puis il ne dépense pas, puis il ne dépense pas. Sauf que cette marge-là...
Il l'a dépensé,
exact, il l'a très bien fait.
Avant Noël, il est allé chercher des gros morceaux.
Oui, puis là, avec, le plafond qui est à côté, comme on dit, à 81,5 millions pour quelques années.
Les jeunes poussent moins.
Exact.
Quand les jeunes ne poussent pas... Il faut que tu ailles dépenser ton argent ailleurs.
Tu te souviens des grands classiques, l'Odyssée? Hein? Quand Ulysse est attaché au mât de son bateau puis il dit le chant des sirènes, là. Les sirènes, c'était nous autres qui disaient à Bergevin, dépense. Puis là, il dit à sa gang, il dit, quand je vais vous demander de me détacher, rattachez-moi plus serré encore. Il est resté sur le bateau au lieu de sauter à l'eau.
Ben
c'est ce que Bergevin a fait pendant 2 ans.
Puis aujourd'hui, ben, il récolte les dividendes de tout ça. Autre dossier que j'aimerais vous entendre, Victor Mété, visiblement, va jouer samedi. En tout cas, à l'entraînement, il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui, mais il était avec Romanov. Donc, Kulak était laissé de côté. Depuis qu'on a procédé à ce changement, on a entré Mété dans la formation et tout, à tour de rôle, Romanov et Kulak ont cédé leur place. Avez-vous l'impression que ça a fragilisé cette troisième paire-là? Puis là, que la confiance est partie, cette troisième paire-là est plus exploitée par les autres équipes quand on les affronte? Ben,
c'est sûr et certain que quand tu commences à faire de rotation, c'est jamais plaisant. Moi, je pense que Kulak puis Romanov jouaient bien au début de saison. C'est normal que tu veux... pas garder un gars comme Mété qui t'a donné des bons services dans les deux dernières saisons dans les Astrales pendant 10-15 matchs. Mais, tu sais, je veux dire, je pense qu'on n'est plus rendu au temps des essais, là. Moi, je pense que Romanov, jusqu'à date, a prouvé qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale. Mais Kulak, lui, l'an passé, il l'a prouvé. Puis même au début de saison, il l'a prouvé. Tu sais, je l'ai dit, là, j'haïs pas Victor Mété, là. Mais pour moi, entre Victor Mété puis Brett Kulak, là...
Il n'y a pas photo.
Il y a 5 et 9... ou 6 et 1 pour la même chose.
Qui pas du pas, hein?
Je veux dire, là, Mété, là, ça fait 3 ans qu'on attend son offensive.
Ouais, ça arrive.
Tu peux te permettre les erreurs. Kyle McCarr, là, il est tout petit, il est moins bon défensivement, mais il est à l'offensive. Et Quinn Hughes, c'est la même affaire. Et Samuel Girard, la même affaire. C'est-à-dire, quand ils font des erreurs en défensive, là, tu peux dire, regarde d'à côté, puis dire les nombres de points.
La profondeur d'une équipe amène un luxe à l'entraîneur où il peut être moins patient. Puis là, il y a plus d'éléments pour Claude Julien. Puis si un joueur, pendant 2-3 matchs, ne joue pas bien, il y a le luxe de mettre quelqu'un d'autre. Même chose à l'attaque avec Perry qui rentrait. Si les joueurs ne sont pas capables de s'adapter, ils sont tous mêmes de faire d'autres choses. Parce que à chaque année, tu as de la compétition à l'interne, tu as des nouveaux gars qui essaient de prendre ta place. Il faut que tu sois capable de gérer ça, sinon tu ne te feras pas longtemps.
Il y a un principe aussi, on regarde ça de l'extérieur, puis surtout les journalistes et les amateurs, pas des joueurs qui sont dedans. Là. On regarde ça et on dit, mon Dieu, le coach devrait être égal avec tout le monde. En théorie, c'est vrai. En pratique, tu ne mets pas Vincent Danfous sur le banc, puis tu ne mets pas Guy Carbonneau sur le banc. Okay? Mais si tu t'appelles Brett Kulak, ou Victor Mété, et même Romanov. Alexandre Romanov en ce moment, ta première saison, Hey, bonhomme, si t'es pas capable de composer avec le fait que tu te fais sortir une fois sur toi, là, t'as pas choisi la bonne job. Parce que Kulak sera jamais plus qu'un défenseur de troisième duo. Oui. Alors, dans ces circonstances-là, t'es susceptible de partir. Est-ce que Claude Julien va être plus patient, entre guillemets, avec Ben Chiarot puis Shea Weber? C'est bien sûr. Est-ce que c'est toujours juste? Non, mais c'est la réalité du sport professionnel. T'es sur un troisième, t'es identifié six ou septième défenseur. Hey, ça devrait pas te surprendre trop quand, une fois de temps en temps, ton chandail n'est pas accroché.
Bon, justement, en attaque, tu en parlais aussi, Vincent, Corey Perry, qu'on amène, qui fait le travail, qui est sur une quatrième trio, puis c'est Paul Byron, bon, qui est cop, il a affaire de contrat aussi, de salaire. Aimez-vous mieux voir un Perry ou un Byron dans votre formation, selon les besoins?
Pour moi, c'était complètement une autre chose. Quand on a signé Corey Perry, là, signait un joueur... Il y a 35 ans, mais c'est juste 35 ans. Là, tu vois, tu viens de signer un gars qui avait du caractère. Il a joué 1054 games, il a 800 points. Il a gagné la Coupe Stanley. C'est un gars qui n'a brassé des affaires. Il a fait tous les championnats mondiaux. Alors, tu allais signer quelqu'un qui avait du caractère, que quand tu allais avoir la petite porte ouverte, qui allait foncer dedans, là, il allait pas attendre sur le banc en pensant « Oh, c'est pas grave si je joue deux, trois matchs ». Fait que pour moi, je suis pas surpris de voir ce que ça. Puis c'est le mien. C'est la raison pour laquelle on l'a signé.
Moi, ça m'impressionne parce que c'est un gars qui n'avait pas besoin de venir puis signer au salaire minimum puis d'attendre son tour, mais il s'est adapté. Il dit, moi, j'aime encore la game. Je veux venir jouer pour le Canadien, attendre mon tour, puis quand ça va être le temps, je vais prouver ce que je peux faire. En même temps, moi, j'aime le fait que c'est deux joueurs complètement différents. Tu me demandes, c'est qui que j'aime le plus entre les deux? Ça dépend.
Il y a deux choses différentes.
Il y en a un qui a énormément de vitesse, l'autre qui a moins de vitesse, mais il est très bon en avant du filet, il brasse, il est capable d'un avantage numérique, d'être à la bonne place, des bonnes mains. C'est deux joueurs différents, puis les deux ont leur utilité.
François?
Il n'y a pas moins de vitesse, il n'y en a plus. Mais c'est pas grave. Quand tu vois, quand il va se camper, c'est ça. Quand il s'en va en avant du but, là, il en a donné des buts, il en a distribué des buts par sa présence devant le filet en avantage numérique. Puis c'est pas Connor McDavid qui va prendre la rondelle en arrière de son but puis se rendre à l'autre bout en faisant trois vrilles. Il va tomber à genoux rendu à l'autre bout parce que, malheureusement, dans le hockey d'aujourd'hui, 35 ans, c'est rendu le troisième âge. Mais ça n'enlève rien à sa valeur. Et la beauté de la chose, c'est que ça, c'en est un autre qui peut jouer 30-35 matchs. Puis s'il en joue 55, c'est parce que le Canadien va avoir eu des blessés. Je suis convaincu que le Canadien veut pas qu'il joue 56 matchs. Il veut qu'il en offre 40-45, qu'il soit efficace en avantage numérique, puis qu'il se repose de temps en temps pour que, quand les séries vont arriver, qu'il soit un facteur important. Puis lui, il a compris. Quatrième trio, ça te... coach, ça me dérange pas. Mais quand le powerplay va arriver, par exemple, t'es mieux de me mettre là.
Oui.
Alors, c'est comme ça qu'il récompense.
Puis ça reste aussi un grand frère pour les jeunes qui sont là.
L'expérience
C'est important d'avoir ce joueur-là dans la formation. Je comprends pour le nombre de matchs, mais l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes aussi.
Oui, la préparation, d'avoir une bonne attitude, même si tu ne joues pas au quatrième trio. C'est important d'avoir des gars comme
ça. C'est important de montrer aux jeunes. Gagner la Coupe Stanley, là, c'est une expérience. Tout le monde y rêve, là, mais c'est un chemin qui est long. C'est moins long cette année parce qu'on a moins de matchs. Là, mais ça reste que quand tu arrives à la fin, il y a des moments où tu te dis « Ouf, c'est tough ». Ces gars comme Corey Perry qui ont eu la chance, des Edmondson qui ont eu la chance de gagner, qui vont parler aux jeunes, ils disent « Hey, faut qu'on fasse ça, ça ou ça. C'est ça qui va arriver, faites-vous-en pas, il faut passer par-dessus ».
Moi, je te dirais que c'est ce qui me manque le plus avec la COVID, là, le fait qu'on ait pas moins d'accès, qu'on n'ait plus aucun accès dans les vestiaires.
S'asseoir avec Corey Perry dans une bonne discussion.
Quand tu... Non, pas rien que ça. Tu rentres dans le vestiaire après une défaite, là,
tu
poses pas de questions. Tu regardes ce qui se passe. Tu regardes la dynamique. Tu regardes les jeunes qui trouvent ça drôle. Tu regardes le vieux là, qui se mange le front avec les dents en haut puis qui veut aller les voir. Et ça, là, t'as pas besoin de poser des questions. Tu prends des notes. Puis tu dis, oh, Luc est choqué après Gagnon à soir. Puis là, tu gardes ça. Puis là, tu te souviens. Puis là, tu comprends le leadership vient de où. Moi, j'ai déjà vu des gars que je nommerai pas qui sont ici à ma droite passer des messages sans dire un mot. Puis là, c'est à toi de le voir puis de dire, OK, je vais m'en servir à un moment donné.
Parlant de joueurs d'expérience, après la pause, vous avez fait vos différentes formations. Vous avez joué au DG d'Équipe Canada. On va vous présenter ça au retour de la pause. Et plus tard, également, Hélène Petit sera là pour nous parler de l'actualité tennis. Et Reid Allon également pour sa chronique Business du sport. À tout de suite.